Baker, oubliez pas vos bottes parce que ça caille aujourd'hui.
Attention, qui que vous soyez, attention, cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences.
Sans blague! Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza?
Mais toi, c'est ta... T'as dit pas un voleur aussi!
Elle va porter plainte pendant qu'on y est!
Vous voulez porter plainte?
Je passe l'éponge.
Un iceberg, droit devant!
Et après? Une fois que t'as dribblé le destin, tu fais quoi?
Plan séquence.
Alors ça vous fait peut-être pas tellement plaisir de l'entendre, mais votre mère, elle a un cul qui va très bien. Va mieux que jamais, même.
Ça n'est jamais assez. On ne leur fait jamais gagner assez d'argent. Qu'est-ce qu'on devient dans cette histoire? Qu'est-ce que deviennent les salariés?
Sur Radio Campus Tour.
Je suis ton père.
T'es incapable de m'aimer. Incapable de m'aimer.
Petite saloperie de païen communiste, t'as vachement intérêt à me dire que t'aimes la Sainte Vierge, ou je te détripe moi un coup de pompe, tu m'entends? Alors dis-le que tu l'aimes, la Sainte Vierge, dis-le, mon guignol!
Chef négatif, chef!
Chut! Comme c'est joli. La Bambi qui fait dodo.
Tous les jeudis soirs.
Il y a trois mots qui sont importants pour moi. Inspiration, création, partage.
Cinglé! Ah, oh, c'est ça! Tu me crois givré à mort!
Les choses entraînent les choses, le bidule crée le bidule, il n'y a pas de hasard.
Bonjour, c'est Léa Drucker, vous écoutez Plan Séquence sur Radio Campus.
Bonsoir à tous et à toutes, vous êtes à l'antenne de Radio Campus Tour, le 99.5 FM. On va vous parler cinéma pendant une heure, désolé pour ce léger petit retard, mais vous inquiétez pas, c'était histoire de tout caler, peut-être qu'il n'y aura aucun souci technique avec ce léger retard ce soir. On va parler de plein de films et des... je ne sais pas pour toi, mais si ça a été un coup de cœur, le film que tu as vu ou pas.
Mi figue, mi raisin.
Ok, mi figue, mi raisin. Alors pour ma part, je vous parlerai de deux gros coups de cœur de l'année que j'ai vus il y a longtemps, mais qui sortent là, qui sont sortis. Le procès Goldman de Cédric Kahn et Le règne animal, le nouveau film de Thomas Caillé. Et j'ai été voir aussi Les feuilles mortes d'Aki Korismaki, que j'ai beaucoup aimé. Enfin bref, il y a du beau... des belles propositions et dans tous les registres pour le coup, parce qu'on parlera aussi bien de science-fiction, de films fantastiques, mais aussi de films un peu plus, enfin de films de procès, parce que Le procès Goldman est un film de procès. Et mais avant ça, il n'y a pas forcément, enfin si Charles n'est pas là, il s'excuse, Sarah aussi s'excuse, elle a la réunion nuit des studios ce soir, donc elle ne sera pas là, mais donc on attendra peut-être la semaine prochaine pour vous parler des décès de la semaine, puisque Charles n'est pas là et c'est sa chronique un peu attitrée, voilà, nécrologie. Et puis puisqu'on a démarré avec du retard, on va pas s'éterniser forcément sur les news. Je sais pas si t'en avais Géry. Je sais que demain soir au studio, il y a une avant-première d'un film. J'ai oublié le nom, mais il y a le réalisateur qui vient, on va vous dire ça tout de suite, le nom du réel. Lost Country, pardon. Il y a le réalisateur du coup du film Vladimir Perezik qui sera là. C'est en partenariat avec Cyclique. C'est à 19h45. Donc une avant-première. Le film sort la semaine prochaine sur les écrans. Et voilà pour les petites news. Et s'il y en a d'autres dans le courant de l'émission, on vous les dira. On va s'éterniser plus et on va vous passer une interview. Le film sort dans deux semaines. Il y a deux films, grands films d'animation qui sortent en fin d'année. Le premier, c'est Linda veut du poulet, de nouveaux films de Sébastien Lodenbach et Chiara Malta. Sébastien Lodenbach, il avait fait La jeune fille sans main il y a quelques années. J'ai eu la chance de le rencontrer il y a quelques semaines. Il y aura un autre film d'animation qui sortira à la fin de l'année, c'est Sirocco et le Royaume des courants d'air. Ce sont deux chefs-d'œuvre du film d'animation, des animations qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et je vous propose voilà, qu'on s'écoute, en espérant que ça vous donne envie, de découvrir le nouveau film de Sébastien Lodenbach et Chiara Malta, Linda veut du poulet.
Avec Chiara Malta et Sébastien Lodenbach, deux réalisateurs de Linda veut du poulet, qui sortira au mois d'octobre prochain. Peut-être, tout départ, est-ce que vous pouvez vous présenter, dire un peu d'où vous venez, et puis après, évidemment, on parlera de l'écriture, du processus créatif du film, mais d'abord, en quelques mots, pour les auditeurs qui ne vous connaissent pas du tout, quelques mots sur votre parcours.
Donc, je suis Sébastien Lodenbach, je suis essentiellement dessinateur au départ. Voilà, j'enseigne aussi le cinéma d'animation aux arts décoratifs. J'ai fait quelques courts-métrages.
Je suis réalisatrice, Chiara Malta, pour le cinéma et la télé. C'est pas mon premier film en animation, parce que j'ai déjà fait de l'animation auparavant, mais souvent mélangé à la prise de vue réelle. Donc, j'ai fait des films en dessin avec des comédiens aussi. Voilà.
Alors là, Linda veut du poulet, c'est votre deuxième long métrage après Linda, après La jeune fille du 101, il y a quelques années, qui était pour les plus grands. Là, on est sur un film aussi très familial, où on va revenir, il y a beaucoup de thématiques différentes dans votre film, beaucoup de genres aussi, ça brasse pas mal de choses. Mais peut-être d'abord, en première question, le processus d'écriture, le point de départ de votre film, comment vous êtes aussi rencontrés tous les deux et comment vous avez collaboré sur le scénario, l'écriture du film.
Et alors, nous, ça fait longtemps qu'on travaille ensemble. Moi, j'ai personnellement, dans mon travail, une petite obsession pour la famille, que j'aime raconter sous toutes ses formes, récomposer, composer, décomposer. Voilà. Et j'avais écrit un film au Moulin d'Andé il y a très longtemps, il m'est resté des jours d'écriture. Et on voulait faire un film pour les enfants depuis longtemps avec Sébastien, et on a profité de ces quelques jours pour commencer à écrire quelque chose. Alors on avait un point de départ pour s'adresser aux enfants, et était la question de l'injustice qui nous semblait centrale dans l'enfance de tout et chacun. Et puis il y avait l'idée de la nourriture liée aux souvenirs. Ça était tout de suite présent. Et l'écriture du scénario, elle s'est fait par étapes. Je dirais qu'il y a eu vraiment une première version qu'on a mis un peu au repos. Et quand on l'a repris, on a peaufiné quelque chose. Mais disons, c'est quelque chose qui nous a essentiellement amusé. Et puis, on s'entend très bien parce qu'on travaille... Enfin, c'est pas la première fois qu'on travaille ensemble. Donc, on savait comment fonctionne l'un et l'autre, quoi.
Donc là, le point de départ, voilà, cette injustice, voilà, que Linda est confrontée. Mais aussi, il y a donc, un thème qui est quand même assez fort dès le départ. Mais vous avez aussi traité ça sous l'aspect aussi de la comédie. Parce que le film aussi, même si le point de départ peut être grave, hein, cette injustice, il est aussi... c'est un film aussi, par moments, très léger. Donc... pour parler aussi bien, j'imagine, aux adultes qu'aux enfants, parce que le film, d'ailleurs, a été montré en première, plutôt à des adultes à Cannes, et pourtant, quand je l'ai vu, ça va parler évidemment aux enfants. Comment vous avez fait cet équilibre-là aussi pour parler, évidemment, à tous les publics? Est-ce que à l'écriture, vous pensiez que c'était avant tout un film, comme vous l'avez dit, familial, et que ça pouvait parler à tout le monde?
Je réponds un instant la parole sur ce point, parce que nous, on voulait faire un film pour les enfants, mais avec un rapport à l'enfance respectueux, parce que on trouvait qu'il y avait des films pour enfants, mais qui avaient tendance à infantiliser les choses. Et donc, on voulait donner un peu de noblesse à cette adresse. Mais c'est plutôt un film qui leur est dédié, quelque part. Et puis, on s'est jamais dit, on fait un film pour cette cible. C'était vraiment une dédicace. On leur a donné tout ce qu'on avait de meilleur, je crois. Et parler d'une façon légère de choses graves, moi je crois que c'est une belle façon d'appréhender la gravité. Ça nous la montre sous un autre aspect aussi, et ça nous empêche pas d'être sérieux. Donc on s'est pris très au sérieux tout en étant léger, enfin c'est ce qu'on souhaitait.
Oui, et puis on voulait mettre ensemble aussi des choses qu'on avait l'impression de pas voir souvent mise ensemble. Donc, par exemple, on voulait travailler sur des images qui soient fortes, qui soient belles, tout en étant dans un film très drôle. Voilà, donc on est tout de suite parti dans quelque chose d'assez pictural, en fait, et d'assez de très coloré. On voulait quelque chose d'assez pop, d'assez proche aussi de l'enfance par certains aspects visuels. Voilà, donc il y a une sorte de volonté artistique assez élevée pour un film qui peut sembler comme ça très léger, mais qui en fait est assez, assez profond.
En fait, vous voyez, ce qui est beau, c'est de mettre ensemble la joie et la mélancolie. Et finalement, c'est pas de sentiments aussi antithétiques, on dit, aussi éloignés. Quelque part, il y a une forme de puissance dans les deux, et donc ils se ressemblent.
Et je voulais parler peut-être du processus créatif, parce que vous l'avez dit, c'est un film très pop, et avec tous ces points de couleur par personnage, comment on paraît dans un processus créatif, c'est venu ça, cette idée, je trouve vraiment encore une fois extrêmement bien trouvée, de chaque personnage a un point de couleur, un peu comme les gobettes qui aiment bien les enfants, et comment c'est venu ça?
Oui, non, mais c'est vrai que l'appellation film de gommette, c'est quelque chose qu'on a souvent utilisé. Il y a plusieurs réponses. Il y a une réponse très simple qui est une réponse économique, qui est que faire une couleur par personnage, ça coûte beaucoup moins cher. Or, c'était important pour nous de faire un film relativement économique. C'est un budget très réduit par rapport à la moyenne des budgets des films d'animation en général, qu'ils soient français ou américains ou autres. Et en même temps, ça permet une grande créativité, ça permet une grande liberté. Nous, on voulait faire un film de mouvement, on voulait faire un film qui bouge, on voulait faire un film qui soit jamais vraiment tout le temps à la même place. Et le fait de travailler comme ça, avec une couleur par personnage, ça nous permet d'être assez libre avec la représentation graphique de ces personnages. On sait que dès qu'on voit un point jaune, c'est Linda. On sait que dès qu'on voit un point orange, c'est sa mère. Et donc, on s'amuse, en fait, avec ça. C'est assez ludique pour nous. Et on a essayé de faire un film dans lequel on s'ennuie pas, ni à le regarder, ni à le fabriquer.
Après, il y a aussi cette idée, d'être assez synthétique dans la représentation, parce qu'il y a d'autres voies pour raconter un personnage. Alors, moi, j'étais née spécialement en gros plan. Donc là, on s'était dit que le grand plan, c'est vraiment le cadre de l'émotion. Donc c'est là qu'on voit vraiment des personnages détaillés malgré la monochromie. En revanche, quand ils sont loin, ben le plan large, c'est le plan du mouvement, en fait. Ça sert essentiellement à raconter ça. Et donc c'est là qu'on se contente de quelques lignes. Donc c'était ça un peu... C'est pas qu'on s'est basé sur des principes, mais on s'est donné cette latitude-là de pouvoir dessiner détaillé, pas détaillé, et puis d'avoir une couleur par personnage qui, évidemment, de loin, ben, ressemble plutôt une gommette. Voilà. Mais et la monochromie était aussi, nous, on pensait aux enfants en bas âge, qui devraient pouvoir se reconnaître beaucoup. Donc, en fait, c'est un film qu'on pourrait regarder, à mon avis, même à partir de... Bon, peut-être j'ai dit une bêtise, mais... Je crois qu'un enfant de 3 à 4 ans pourrait quand même y adhérer au film. Il y a quand même devoir d'entrée à ça. Parce que quand on les voit faire du coloriage, eux, ils ont une vision qui est très abstraite. T'as parfois choisi une couleur parce que c'est une température émotionnelle ou parce qu'ils ont envie de cette couleur-là, à ce moment-là. Donc, on a fait un peu comme eux quand ils font du coloriage. Avec une certaine... Ouais, ils débordent. Et puis, ils ont peut-être... Il y a un certain niveau de fainéantise aussi. Et donc, on a adhéré à ce principe-là, voilà, d'être un peu feignant, nous aussi.
Il y a beaucoup aussi de liberté dans votre film, voilà, quand on parle de, ne serait-ce que de déborder, voilà, on est libre de déborder ou pas. Et je trouve que cette liberté aussi, elle est dans tous les décors du film. Enfin, il y a les courses-poursuites, il y a les enfants, je trouve ça aussi très bien, là, le quartier aussi, comme vous avez cartographié le quartier. Alors, moi, j'ai pas grandi en quartier, mais dans la campagne, au final, il y a quand même un endroit où on se retrouve, et puis avec les copains pour aller jouer au foot ou pour jouer dehors. Et je trouve, voilà, ce rapport à l'enfance aussi, il est par là. Comment vous avez, voilà, cartographié tous ces lieux-là, que sont, il y a la course-poursuite, donc quand ils vont chercher le poulet à la campagne, mais surtout le quartier. Voilà, comment vous avez pensé ce quartier-là?
Mais il y avait une idée de frontière entre la ville et la campagne. Tout ça, parce que quand on parlait de poulet, donc très vite, la question de... d'où vient ce qu'on mange, était assez central. Parce que c'est vrai que si on prend un enfant de ville, c'est pas dit qu'il sache exactement d'où vient tout ce qu'il mange, à part des rayons du supermarché. Donc ça, oui, mais avant, il y a une histoire. Donc ça, peut-être que des enfants de ville l'ignorent, le savent plus. Moi, j'ai un peu vécu cet écart-là parce que ma grand-mère venait de la campagne et ma mère, elle a grandi en ville. Donc j'ai vu chez ces deux femmes... des univers totalement différents. Après, il y a une volonté aussi, une grande provocation dans le film, parce qu'on s'est fait aussi une idée assez bucolique de la campagne. Et notamment, il y a ce personnage de Mémé qui ne sait absolument pas tuer un poulet, alors que son fils, il a cette mythologie-là parce qu'il a grandi à la campagne. Donc, on aimait aussi démonter un peu de lieux communs vis-à-vis de cette frontière-là. Concernant cette espèce de microcosme qu'est la cité, on s'est inventé une cité qui nous est arrivée de voir. Alors, il y a eu quelques petits soucis au moment de la reconstitution de cette cité, parce que moi, j'avais des souvenirs de cité en Italie. Et alors, la place en Italie est centrale. Et donc, on a fait un peu, peut-être un compromis entre cet imaginaire de cité italienne et française. Et puis, le résultat, ben, c'est ce que vous allez voir.
Et c'est vrai qu'en tout cas, ce qui nous intéressait dans la cité, c'est justement ce que vous disiez, c'est-à-dire le fait qu'il y a un endroit où tout le monde se retrouve. Et surtout, la cité, telle qu'elle est là, c'est une petite cité, donc entre la ville et la campagne, les enfants peuvent être libres, les enfants peuvent être seuls, ils sont complètement autonomes, et donc ils se retrouvent en bande, ils vont à la supérette, ils vont à l'école, ils vont d'un immeuble à l'autre, ils se connaissent tous, etc. Et c'est ce côté petit village, en fait, qui nous plaisait beaucoup.
D'ailleurs, la question, j'anticipe peut-être des questions que vous avez, mais la question de l'enfant seul, en tout cas pour moi, était centrale parce que je trouve que les enfants, ils sont beaucoup plus intéressants quand ils sont sans les parents. Et il y avait comme ça une possibilité d'identification beaucoup plus grande chez un public d'enfants, de se regarder parmi les siens, et par les siens, j'entends ceux de leur âge, parce que il y a toujours un peu... Ces films pour les enfants, souvent, sont offerts essentiellement aux parents avec une idée d'enfance qui ne correspond pas foncièrement à ce qu'est un enfant. Et les enfants sont beaucoup plus intéressants, même intelligents, quand ils sont seuls. Il y a une vérité qui se déploie quand l'enfant est seul. Et donc ça, ça nous intéressait, d'où l'idée de les mettre dehors dans un espace qui est protégé, donc libre de vivre et d'être ce qu'ils sont, quoi.
Oui, et puis il y avait l'idée de faire que les adultes, justement, de la, du film retombe en enfance. Il y a une espèce de, presque d'inversion, quoi. Les enfants sont plus futés que les adultes qui, eux, se prennent les pieds dans le tapis.
Vu que le temps file, j'aimerais bien qu'on aborde tout ce qui est son et surtout la musique de votre film, puisqu'il y a de la musique, mais il y a aussi des chansons. Comment, notamment deux, si je me trompe pas, deux, à la fin et au milieu, qui apportent de la légèreté et de la gravité aussi. Comment, très poétique aussi, ces musiques-là. Vous avez travaillé là-dessus? Je sais que c'est vous qui avez écrit les paroles, si je ne me trompe pas. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce processus-là?
On a écrit ces paroles ensemble comme un scénario, en fait. Quand on a imaginé d'écrire des chansons, déjà, ça nous amusait beaucoup d'en écrire. Et c'était pour approfondir un peu les personnages, pour leur donner un peu d'épaisseur, parce que dans cette course-poursuite au temps présent, il y a un temps de description des personnages, mais qui se fait via l'action. Et donc, c'est comme s'ils n'avaient pas de passé. Alors, c'est un film qui enquête dans le souvenir perdu, mais chacun a eu un passé aussi en tant qu'enfant. Et puis, il y a des relations qui se sont tissées avant la naissance de Linda, et même tout ce qu'elle a oublié, et puis son père. Donc il y avait quand même comme des plages comme ça de respiration données par les chansons où on pouvait parler un peu plus de ces personnages pour les faire connaître au public. Et puis c'est des moments aussi où le film se libère, pas qu'il soit contraint tout au long, mais quelque part il est dans une dimension d'irréalité qu'il atteint mine de rien dans sa partie finale, mais où on pouvait être plus dans une imagerie qui n'était pas forcément liée à la réalité de la cité. Et même dans le dessin et dans la mise en scène, en fait. C'est comme si on se libérait, c'était des bulles, on pouvait se libérer un peu. Et puis on les voulait, comment dire en français, quand on peut chanter une chanson mélodieuse, en fait, qui est mélodique et dont le public puisse s'en souvenir. Et tout ça fait partie d'une atmosphère. C'est une façon de connoter aussi un peu le film. En ça, il nous a beaucoup aidés. Il a même vraiment participé au film à plein de titres, le musicien Clément Dugol, parce que nous, on avait écrit les paroles. Mais lui, quand il les a mises en musique, il a vraiment donné une couleur au film. Et sans lui, il aurait été une autre. Donc, on le remercie beaucoup pour ça.
Et au niveau des voix, de ceux qui vont incarner Linda, sa maman, sa tante, comment... j'ai lu comment vous avez procédé, mais est-ce que vous pouvez parler de comment les actrices ont enregistré les voix? Ce n'est pas forcément un processus habituel. Elles ont enregistré un peu dans les conditions réelles de ce qu'elles allaient jouer, même si c'est un film d'animation.
Oui, c'est pour ça que c'est pas vraiment... Nous, on préfère parler vraiment de jeu d'acteurs que de voix. C'est vrai que très souvent, dans les films d'animation, les voix, justement, sont enregistrées dans des studios fermés, derrière un pupitre, etc. Nous, on voulait vraiment faire le contraire de ça. On a commencé par enregistrer tous ces comédiens et comédiennes dans les lieux réels du film, avec nos idées de mise en scène, de spatialisation, de distance entre les personnages, de déplacement. On avait fabriqué aussi des objets en mousse afin que tous les comédiens puissent avoir des accessoires à manipuler comme support de jeu. Et le fait d'avoir en mousse, ça fait qu'on n'a pas de bruit parasite. Pour constituer tout ça une matière, en fait, vivante. Pour que passer de l'écrit du scénario à la réalité, au réel, voilà, qui est quelque chose qui se produise et que l'enregistrement justement de tous ces sons ne soit pas l'application de quelque chose qui a été intégralement prévu en fait en amont quoi.
C'est comme une sorte de ça a été. C'est donc vrai, le film témoigne de ça. Ça a été en fait et quelque part tout ça s'est passé. À un endroit de fiction, mais ça s'est vraiment passé. Donc, et on a vraiment dû ajuster la mise en scène. Et ça nous a plu de faire ça parce que il y a des qualités de vie que le film n'aurait pas eu sinon. Voilà.
Oui, c'est quelque chose qu'on. Donc ça veut dire prendre en compte la notion d'accident. Il se passe des choses qui n'étaient pas forcément prévues au départ. Et c'est quelque chose qu'on a voulu poursuivre après dans le style graphique, dans le type d'animation. On a une animation assez libre, assez ouverte. Et tous les membres de l'équipe d'animation ont eu une certaine latitude pour proposer des gestuels, des comportements des personnages à partir de toute cette matière sonore qui avait été enregistré et monté. Il y a eu un énorme travail de montage évidemment et voilà donc ce jeu avec l'accident pour nous c'était quelque chose de très important. Très souvent en animation on valide des étapes, on fait une étape, on dit ok ça c'est bon, on parle même de locker, c'est ce qui est terrible, de verrouiller les choses. Ça c'est verrouillé, donc c'est bon, on peut passer à l'étape suivante. Nous on voulait rien verrouiller, on voulait que tout soit ouvert tout le temps et qu'on puisse changer les choses comme justement quelque chose de vivant, quoi.
Souvenez-vous, les enfants, demain, c'est grève, hein ?
Ouais ! Linda, rentre immédiatement !
T'es une voleuse, Linda, et une menteuse.
Bah, qu'est-ce qu'il y a ?
Il y a qu'elle est punie, alors elle va dormir chez toi.
Hein ? C'est ça, la punition ?
C'est ça, le dîner ?
Tu veux quoi, des surgelés, comme chez ta mère ?
C'est dégoûtant !
Je suis pas une menteuse.
J'ai été très injuste. Pardon, Linda. Tu peux me demander tout ce que tu veux.
C'est du poulet que je voudrais. Avec des poivrons.
Du poulet au poivron ?
Il pollo con un pepperoni.
Poulet papa.
Ah, oh, c'est pas vrai, j'avais oublié.
On peut pas acheter de poulet aujourd'hui ? On va lui trouver son poulet.
Et elle vous a pris un poulet ?
Vous la connaissez ?
C'est ma sœur.
Les enfants.
Ah wow. On va le pêcher à la ligne, le poulet.
On va se le faire, ce poulet au poivron.
Allez, fonce.
Allô? Ah, c'est vous, chef. Oui, oui, tout ben.
Bienvenue, poulet au poivron. Moi, j'aime pas les poivrons.
Tous les jeudis soirs sur Radio Campus Tours, Plan Séquence, une émission sans coupe, une émission d'un seul mouvement, d'un seul tenant, une émission d'un seul souffle. Plan Séquence, une émission qui glisse, une émission qui chemine lentement, d'abord dans les oreilles, puis dans les cœurs et les âmes, sur Radio Francus. Mais c'était...
Pardon. Merde, excuse-moi. J'ai merdé.
De retour sur Radio Campus Tours, le 99.5 FM pour votre émission Plan Séquence. Vous venez d'écouter Sébastien Lodenbach et Chiara Malta, les réalisateurs et réalisatrices de Linda veut du poulet, qui sort le 18 octobre prochain sur tous les écrans français. Et tout de suite, on va parler des films qui sont sortis la semaine dernière et cette semaine, puisque voilà, on n'était pas là la semaine dernière, mais on va se rattraper. Et on va tout de suite, Géry, toi tu vas aller voir The Creator, c'est bien
exactement,
ça?
Exactement, The Creator de Gareth Edwards, qui est sorti très récemment, qui pour l'instant n'est visible qu'au CGR. On verra ce qu'il en sera à l'avenir. Donc c'est un film qui a été présenté un peu comme le renouveau de la science-fiction et qui a fait parler lui parce qu'il n'a coûté, à mettre entre parenthèses, hein, bien sûr, que 80 ou 85 millions de dollars de budget. Ce qui peut paraître énorme, mais qui est finalement très peu comparé à d'autres films, notamment des films sous la licence Marvel. C'est aussi d'ailleurs une des nouveautés de ce film, et ce qui attire l'attention, je pense, de pas mal de critiques, c'est le fait que ce film n'est tiré d'aucune licence. C'est pas une adaptation d'un livre, c'est pas l'adaptation d'un jeu vidéo, c'est pas la suite d'un film qu'on a déjà vu. C'est un univers complètement nouveau, mais quoique, il y a quand même beaucoup d'influence sur ce film-là, j'en reviendrai plus tard. Et c'est aussi un film qui est créé par, qui a été réalisé par Gareth Edwards, qui a réalisé notamment le film de Star Wars, Rogue One, A Star Wars Story, donc qui n'est pas dans la trilogie officielle, entre guillemets, mais qui dépend quand même de la licence Star Wars. Donc, que raconte ce film ? C'est l'histoire d'un futur proche, enfin proche ou pas, ça c'est pas vraiment dit, mais c'est un film où le monde est, on le sent, divisé en deux parties, un conflit bipartite entre les États-Unis et ce qui est appelé la Nouvelle-Asie dans le film. Nouvelle-Asie qui est en partie dirigée et qui devient le leader mondial en fait de l'intelligence artificielle et qui crée donc ce qu'on appelle des simulants et des simulantes, c'est-à-dire des intelligences artificielles dans des robots et qui ont un aspect humanoïde. Cependant, ce qui a engendré l'intelligence artificielle, c'est l'explosion, une attaque atomique sur une ville de Californie, alors à Los Angeles, et donc qui a créé un vide énorme et créé de nombreux blessés, bien sûr. Et ce lieu où a eu lieu l'explosion atomique est appelé dans le film Ground Zero, sûrement un hommage, entre guillemets, ou un rappel, en fait, du 11 septembre. Donc, on va suivre, en fait, l'histoire de Joshua, qui est un agent spécial qui va devoir s'infiltrer en Nouvelle-Asie pour retrouver en fait l'arme suprême de l'intelligence artificielle, une arme donc créée de façon artificielle par les simulants et les simulantes pour détruire totalement l'humanité. Et sachant que les États-Unis de leur côté, eux, ont comme arme un vaisseau spatial Nomad qui s'appelle Nomad, en fait c'est son nom, et qui est capable de voir les bases en fait des ennemis et les détruire de façon assez chirurgicale. Sauf qu'entre-temps, cet agent spécial se sera pris d'amour d'une femme qui s'appelle Maya. Et on s'apercevra au fur et à mesure qu'elle a un lien très particulier en fait, avec l'intelligence artificielle. Le nom du créateur, en fait, c'est une connotation très, très ésotérique, très, très déiste. Il y a le créateur, mais tout le créateur peut également détruire. C'est tout ce que dit le film, en fait. Voilà, c'est le monde bipartite. C'est un film assez, malgré le sujet de l'intelligence artificielle, qui apporte un regard nouveau. Ça ferait, c'est plein de références, comme je le disais, et ça ferait presque passer Terminator pour un film réac. Donc ça... Voilà, ça a plein d'influences, comme je le disais. On voit des influences aussi bien au niveau esthétique. Le problème, c'est qu'en fait, on voit plein de choses qui sont déjà vues et ça devient presque, je trouve, indigeste. On a des influences de Star Wars, évidemment, mais aussi de plein de films de science-fiction japonais, notamment l'animation comme Akira ou Ghost in the Shell, les films de guerre américains, puisque ça s'appelle Nouvelle-Asie, mais en fait, cette Asie, on l'a déjà vu dans plein de films. C'est le Japon d'Akira, comme je le disais, ou de Ghost in the Shell, les plaines d'Asie. Ça pourrait être le Vietnam qu'on voit dans Full Metal Jacket. Il y a également des choses plus récentes, comme le film Chappie, comme iRobot aussi, avec Will Smith. Et le film, pour moi, est assez maladroit, parce que il y a également des choses assez incongrues, comme de l'humour à l'Indiana Jones, mais qui colle pas du tout en fait à l'univers, des faiblesses dans le scénario, le script, qui rendent les choses assez faciles. Par exemple, il cherche l'ouverture d'une base ennemie, donc créée par l'intelligence artificielle, et là, les yeux du héros se rivent sur une statuette, il a juste à tourner la statuette, et la porte s'ouvre. Sans vouloir vous en dire trop, sans vouloir spoiler, c'est plein de faiblesses comme ça. Ça manque un peu de finesse aussi, comme des missions d'infiltration où les héros arrivent comme des expendables. Enfin, c'est assez délicat. Le film a un bon accueil par la critique, mais par contre, il se fait apparemment descendre par le public nord-américain. Parce que je pense qu'en fait, c'est plein de choses qu'ils ont déjà vues. Ok, il n'y a pas de nouvelle licence. Ça, c'est une nouveauté, mais qui n'en est pas forcément une. Et aussi, ce qui est assez gênant, c'est l'ambivalence qu'il peut y avoir par rapport à l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que ce film essaie de l'humaniser l'intelligence artificielle de façon assez maladroite. C'est un peu comme la NRA qui vous dit, bah non, les fautifs, c'est pas les armes, c'est ceux qui utilisent les armes. Là, on a un peu l'impression que c'est, bah non, les fautifs, c'est pas l'intelligence artificielle, c'est ceux qui l'ont créé. Et ce film arrive en plein milieu d'une grève d'ampleur internationale, la grève des scénaristes et des acteurs d'Hollywood. Donc c'est un film qui est opportuniste, mais qui en même temps marche sur des œufs. Et c'est dommage parce qu'il y a quand même des bonnes choses à retenir sur ce film, notamment le point de vue qu'il aborde sur l'intelligence artificielle. Même si je le trouve assez délicat, au moins il se démarque de ses concurrents, enfin concurrents de ce qui était déjà fait comme Terminator. Également, il y a un aspect esthétique assez léché. On retrouve par exemple des mélanges de robots de toutes sortes, en fait, de toutes classes sociales, aussi bien des robots assez pauvres, on voit qu'ils sont abîmés, des moines robots. Il y a un mélange en fait assez ésotérique entre le mécanique, le vivant et le spirituel. Et ça rend assez bien. Mais ça reste quand même pour moi un film de divertissement, malgré la nouveauté qu'il essaye d'insuffler. Ça reste un film assez pop-corn. Je ne le descendrai pas comme certaines critiques, comme certains spectateurs ont pu le faire. Après, est-ce qu'il va perdurer dans le temps? Ça, j'en suis vraiment pas sûr. Je pense qu'il serait assez... Je me demande si un jour, il n'y aura pas une suite de ce film. J'ai peur qu'en fait, il rentre dans une sorte de licence. Une licence qui ne sera pas un succès, puisque visiblement, les spectateurs ne se ruent pas à le voir. Je l'ai vu au CGR mardi soir, et on était loin d'une salle comble, alors que c'est un film plutôt grand spectacle. Les effets spéciaux, pour moi, il n'y a rien à dire. On rentre quand même dans un univers post-apocalyptique, pardon, qui, même s'il est déjà vu, l'aspect esthétique et n'a rien à envier à d'autres films qui ont des budgets beaucoup plus spectaculaires. Par exemple, pour moi, je trouve ça beaucoup plus intéressant à voir que Avatar, alors qu'il raconte un peu la même chose, parce que c'est une critique de l'impérialisme américain. Comme ces deux films, mais voilà, d'où mon raisonnement mi-film mi-raisin par rapport à ce film The Creator. Faites-vous une idée, hein, si vous voulez aller voir, vous ne perdrez pas forcément votre temps, mais si vous voulez voir vraiment de la science-fiction et tout ce qui est le rapport entre l'humanité et le robot, vous pouvez aussi voir Ghost in the Shell ou ce genre de film, ou même vous revoir Terminator si vous voulez si vous voulez un blockbuster.
Et je poursuis, alors j'ai pas vu le film, mais tu parlais de la grève à Hollywood. C'est vrai qu'on en a parlé au début d'émission, mais la grève est... Alors les scénaristes ont avancé, eux ont repris le travail, ça y est, la grève est finie pour les scénaristes, mais pas pour les acteurs, elle se poursuit pour les acteurs, puisqu'ils ont obtenu... notamment ce gros succès, enfin on verra si ça va vraiment exister, mais voilà, maintenant ils vont être rémunérés à hauteur du succès qu'ils auront sur les plateformes. C'était une de leurs volontés. Ils n'ont pas, je pense, tout obtenu, et c'est pour ça que ça continue. Mais il y a des garanties, en tout cas, qui ont avancé depuis la dernière fois qu'on en a parlé. Et c'est quand même assez historique. Ça faisait 5 mois qu'ils étaient en grève. Donc là, voilà, ils se sont remis au travail. On verra. Voilà, les acteurs continuent, parce qu'eux, ils ont pas encore obtenu satisfaction. Mais voilà, on continuera à vous tenir informés. C'est vrai qu'on avait oublié d'en parler au début d'émission. On peut passer une musique. J'ai vu que la liste des musiques était assez longue dans The Creator.
Ça, le film est assez long lui-même. La musique aussi, sans être époustouflante, colle bien à l'univers.
Et alors, on va peut-être. Parce que il y a des musiques évidemment existantes, mais j'ai vu que c'était Hans Zimmer qui avait fait la musique. Et ben, on va s'écouter une petite musique de.
C'est peut-être les quelques millions du budget.
C'est ça. On va s'écouter une musique de Hans Zimmer et puis on se retrouve dans quelques minutes sur Radio Campus.
Jacques Gamblin, Radio Fréquence Plus de Campus et de tout le monde et de tout le reste. Et c'est pas mal, non?
Et voilà, c'était Jacques Gamblin pour son célèbre jingle maintenant sur Radio Campus Tour. Vous écoutez toujours Plan Séquence et tout de suite, on va parler d'un film qui est sorti aussi la semaine dernière dans un autre registre, c'est le procès Goldman. Mais avant d'en parler, je vous propose qu'on s'écoute quelques bouts de la bande-annonce du film.
Goldman, Pierre Bernard, né à Lyon le 22 juin 1944. Goldman innocent !
Les faits qui vous sont reprochés sont les suivants. D'avoir, le 19 décembre 1969, attaqué à main armée une pharmacie 6 boulevard Richard Lenoir à Paris. Homicide volontaire sur deux pharmaciennes, vous êtes ce qu'on appelle un insoumis.
Révolutionnaire dans l'âme.
Monsieur Goldman, peut-on vous qualifier de gangster ?
Oui.
Et d'assassin ?
Non, certainement pas.
Et pour vous, il est innocent, vous ne vous posez pas la question.
On ne peut pas comprendre Pierre Goldman si on ne comprend pas la portée de son histoire familiale, sur sa personnalité et sur ses combats.
Pourquoi ce procès nous fascine tant? Pourquoi il est impossible d'en détourner les yeux?
Vous êtes qui pour parler de mes parents de cette façon? Vous avez fait quoi dans votre vie, vous? Mes parents sont des gens exemplaires et courageux, c'est des héros!
Comment décririez-vous l'homme que vous avez vu ce jour-là? Tournez-vous un peu vers le mur.
Pierre Goldman, sous-entendez-vous que la police de ce pays est raciste? Ah, non seulement je le sous-entends, mais je l'affirme.
Eh bien, c'est une honte!
Maîtrisez vos humeurs, résistez à vos bons mots. Je vous rappelle que les charges qui passent contre vous sont extrêmement lourdes et que vous risquez votre tête.
Goldman, assassin! Vous n'avez pas le droit!
Eh bien, je suis innocent, monsieur le président, et ça me donne tous les droits! Tous les droits!
Je suis innocent parce que je suis innocent. Personne ne peut rien y faire, même pas vous.
Voilà. Le procès Goldman 12e film de Cédric Kahn, réalisateur français, sorti la semaine dernière. Je l'ai vu il y a quelques mois, il est sorti la semaine dernière, mais j'ai eu la chance de le voir au festival de Cannes. Je n'ai pas besoin de le revoir pour vous dire en tout cas que c'est un énorme coup de cœur de l'année. J'ai un souvenir très précis du film. Je connaissais l'histoire dans les grandes lignes de Pierre Goldman, puisque le film raconte l'histoire du procès de Pierre Goldman. Moi, je connaissais sa triste fin à Pierre Goldman, mais je ne connaissais pas l'histoire de ce procès, par contre. Et le film se concentre uniquement sur le procès et cette affaire. Un deuxième procès, d'ailleurs, plus exactement. En 1975, il avait été accusé d'avoir tué deux infirmières, deux pharmaciennes plutôt, à Paris. Et c'était une affaire politique. Pierre Goldman était un militant d'extrême gauche de l'époque. Et il était accusé d'avoir tué ces deux femmes. Et ça avait été un retentissement assez fort dans les années 70. Le film parle de ce procès, mais aussi de confrontation, puisque la première et la plus saisissante du film, elle va opposer Pierre Goldman à son avocat, Georges Kleijman. C'est un film de face-à-face, donc face-à-face entre ces deux hommes, mais aussi face-à-face de Pierre Goldman. Vous avez pu entendre quelques paroles là, dans la bande-annonce, mais il va être confronté à la fois aussi à la vindicte populaire. Et puis ce personnage-là, moi, le film m'a fasciné parce que ce personnage est assez insaisissable, le personnage de Pierre Goldman. Le film n'est pas un biopic, c'est pas l'histoire. Enfin, on va pas voir aussi de flashbacks sur comment ça s'est passé dans cette pharmacie. Pas du tout. Non, le film vraiment se concentre sur cette salle de procès. L'idée aussi, c'est pas de faire de Pierre Goldman un héros, un martyr, mais vraiment d'interroger et de porter le film. Vraiment, le film est une réflexion politique. A-t-il tué ou pas? Au nom de quelle idéologie aussi a-t-il tué? C'est pas aussi binaire que ça, hein. C'est pas aussi simple, parce que la société de l'époque voulait que ça soit peut-être simple, mais c'est pas aussi simple que ça. Pierre Goldman est un intellectuel, il joue sur les mots, là vous avez pu l'entendre, le poids de la parole est très importante pour lui, et l'action aussi est très importante pour lui. Donc il va balayer les rumeurs, il va balayer les on-dits. Pour lui, il faut qu'on se base sur les faits, uniquement sur les faits. Et dans le film, ce qui est vraiment très bien représenté, c'est tout le poids des gens face à cette affaire. Il y avait aussi bien ceux qui voulaient le traîner vraiment plus bactère, et puis ceux qui le soutenaient, en fait. Et la société a été clivée comme ça, et le film représente ça. Et je pense aussi, personnellement, que ça, alors, même si le film se passe dans les années 70, que mine de rien, il est... d'une certaine manière aussi assez contemporain, puisque la société est aussi clivée en ce moment entre tous les bords politiques, que ce soit l'extrême gauche ou l'extrême droite. Et dans le film, on voit bien ça. Ce qui en fait aussi pour moi un grand film, c'est que la mise en scène de Cédric Kahn est épurée. Il n'y a pas de musique, on en entend dans la bande-annonce, mais en fait c'est vraiment pour une question de promotion du film, là, mais il n'y a aucune musique dans le film. On se concentre uniquement sur le procès. Il y a un cadre resserré, un huis clos, vraiment une tension entre tous les protagonistes. D'ailleurs, j'ai lu des interviews, Cédric Kahn je le cite, « Je voulais montrer l'art oratoire d'un procès et la difficulté de rendre la justice. » Je trouve que c'est bien représenté. Et la tension, elle naît aussi, cette mise en scène de cadre resserré, comme je l'ai dit, mais aussi par la disposition des caméras, puisqu'il a tourné avec trois caméras en permanence pour avoir les réactions du public. Et il avait donné seulement des indications aux figurants, c'est-à-dire que les figurants n'avaient pas lu le scénario, donc ce qui a permis d'avoir des réactions assez spontanées et puis sincères. Vraiment, je trouve que le film est très grand. Ça parle parce que ça résonne, comme j'ai dit, avec le monde contemporain, notamment sur les questions des violences policières, parce qu'il y a ça dans le film, la question du tribunal populaire avant le jugement des affaires, la fracture de la société. Et à l'heure des procès expéditifs sur les réseaux sociaux, notamment sans justice, ce film est un profond plaidoyer pour l'état de droit, je trouve. Et je trouve qu'en fait, c'est un film important pour ça. Pendant le film, nous-mêmes, on est en train de juger Pierre Goldman. Est-ce qu'il est coupable ou pas? Est-ce que nous aussi, on va se faire une opinion comme les jurés du tribunal, là? Donc, Donc vraiment, je vous conseille, si vous ne connaissez pas cette affaire, d'aller voir le film par curiosité. Pareil, le film pose plusieurs autres questions sur Pierre Goldman. Il était profondément marqué par la question de la judéité aussi, parce que en fait, Pierre Goldman et son avocat Georges Kleijman sont deux enfants de la Shoah. Ils ont grandi avec des parents qui ont vécu la guerre, avec cette sensation d'oppression, des parents aussi communistes, mais qui étaient juifs mais pas croyants. Ils ont chacun fait de ça une force différente, parce que Pierre Goldman, il était écrasé vraiment par l'histoire de ses parents. Il le raconte dans les interviews. Et Kleijman, il était plutôt dans la résilience, en fait. Donc, vraiment deux personnages différents. Le film aussi est porté par un casting assez dingue. Voilà, Arié, moi, je ne connaissais pas Arié Hostetler, pardon, qui incarne Pierre Goldman. Il est convaincant vraiment du début à la fin. Sa gestuelle, ses déplacements, son regard font vraiment revivre Pierre Goldman. Et puis Arthur Harari, qui campe l'avocat, est assez stupéfiant aussi. Et puis des fois, vraiment interloqué par les agissements de son client. Donc voilà, je vous conseille, c'est au Cinéma Studio, là. Voilà, au Cinéma Studio. Et il était présenté à la quinzaine des réalisateurs à Cannes en mai dernier. Et puis il y a des interviews de Cédric Kahn qui retracent. Alors dans le film, c'est le demi-frère de Jean-Jacques Goldman, Pierre Goldman, et dans le film, bah, il était tout jeune homme, mais il y a le sosie de Jean-Jacques Goldman qui était sur le banc de la famille de Pierre Goldman, quoi. Donc voilà, c'est le procès Goldman. Et je sais pas si tu voulais, vous aviez entendu parler du film?
J'en ai entendu parler sur une émission, je ne sais plus laquelle, et qui parle justement du renouveau actuel des films de procès.
Est-ce qu'on a eu Anatomie d'une chute, là, de Justine Triet, effectivement. Et il y en avait eu un autre, et je ne me rappelle plus. Et celui-là, Anatomie d'une chute, il y a quand même une grosse partie, pareil, qui se passe dans un procès. Et pareil, des procès qui vraiment parlent aussi de comment ça se passe dans un tribunal français, parce que on a toujours, des fois, même dans les films français, de dire « votre honneur ». Et en fait, il y a plein de choses comme ça qui n'existent pas dans le droit français. Et elle l'expliquait très bien, Justine Triet, d'ailleurs, là-dessus.
C'est ça, justement, parce que la spécificité, en fait, contrairement, je pense, à d'autres pays comme les États-Unis, qui produisent aussi des films de procès comme Philadelphia, par exemple, c'est que c'est toujours à huis clos. Donc, il n'y a pas de caméra, mais il y a quelques vagues croquis. Mais c'est tout.
Alors il y a la seule, alors c'est un film néanmoins de fiction, même basé sur des faits réels, mais néanmoins fictionné, puisque par exemple une différence par rapport à la vraie histoire, c'est que la femme de Pierre Goldman n'avait pas assisté au procès, et là elle apparaît au procès. Donc elle était très importante dans sa vie, mais elle n'a pas participé à ce procès-là. Mais là, elle a fait revivre. Il nous reste un peu moins de 10 minutes. On va vous parler, pareil, autre grand film, autre gros coup de cœur pour moi. Pareil, renouveau. Là, le cinéma français est assez exceptionnel en ce moment. Vraiment, je n'emploie pas non plus tout le temps ces mots-là. Mais là, le film fera date. Il y a 10 ans, il signait Les Combattants. Maintenant, il signe avec Romain Duris et Paul Kirchner Le règne animal. C'est Thomas Caillé.
T'as vu le retard qu'on a déjà?
Genre, c'est ma faute.
Attends, tu te fous de moi? Attends! Emile! Oh! T'arrêtes ton circuit!
C'est quoi ton problème?
J'ai pas envie de...
C'est une mutation. C'est un phénomène récent, complexe. Et j'admets volontiers, on comprend pas tout.
C'est ta mère, Emile.
Ça t'a fait quoi quand maman elle a commencé à changer?
Faut me faire confiance. On va la retrouver.
Lala!
Les recherches commencent à peine. Ça va aller.
Il y a des survivants. J'en ai vu hier soir.
T'as peur des créatures?
Faut apprendre à vivre ensemble.
Faut pas avoir peur.
Maman!
t'attrape, c'est terminé. Tu seras tout seul. Tu comprends ça?
Voilà, le règne animal de Thomas Caillé. C'est rare, vraiment. C'est un film à la fois fantastique, un film sur les liens entre un père et un fils. C'est un film sur la société. Y a différentes thématiques, donc c'est vrai que c'est impossible de le cataloguer dans une case, donc ce qui en fait quand même un film atypique. C'est l'histoire du coup de François qui est joué par Romain Duris, qui a un fils, Émile, qui est joué par Paul Kircher. Bluffant, lui, alors, c'est sûr, là je mets j'ai pas de billet sous la main, mais vraiment il va faire une carrière assez exceptionnelle, il est dingue, à mon avis il aura le César du meilleur espoir masculin, ou en tout cas il sera dans la liste, c'est pas possible autrement. Il joue Émile, voilà, le fils de François. La compagne, voilà, de François et la mère d'Émile est atteinte. Voilà, elle commence à se transformer. C'est le début du film, mais on ne sait pas forcément pourquoi et qu'est-ce qui a généré ça et en quoi elle va se transformer. Et on comprend assez rapidement, c'est vraiment le postulat du film. Il y en a qui sont atteints d'une maladie qui va les transformer petit à petit en un animal, mais ça diffère selon les individus. Et c'est comment on protège, comment on va... c'est inéductable, les gens vont se transformer, c'est pas juste en une pilule, tiens, ils vont entre guillemets ne plus être contaminés. Non, c'est vraiment la contamination, elle est sur la durée, quoi. Et comment on protège les autres, comment on réagit quand c'est quelqu'un de ta famille qui est contaminé par ça, est-ce que faut les parquer dans des endroits bien délimités, est-ce que c'est contagieux aussi cette maladie, comment la société gère ces malades, comment on va les accompagner dans cette mutation, transformation, qu'est-ce qu'on fait de ça, quoi, et comment on réagit face au regard des autres quand c'est dans ta propre famille. Donc le film interroge ça, et je trouve que 3 ans après le début du, enfin, en tout cas le Covid, le film évidemment parle de ça, enfin voilà, de comment on a réagi face à ça, et le film emmagasine plein de choses de l'époque contemporaine, et comme si en 3 ans il avait réussi à digérer ça et à nous en faire une histoire assez universelle et qui parle du présent et du futur, quoi. Et rien que pour ça, je trouve le film, alors il avait attendu 10 ans pour faire un film, mais alors s'il attend tous les 10 ans pour faire un chef-d'œuvre comme ça, c'est chouette, parce que le film peut parler aussi bien à des ados, parce que Paul Kircher, là, qui joue Émile, il est adolescent, il est au lycée, et du coup il se questionne là-dessus, comment il va grandir aussi dans un monde qui change, comment on agit face à ça. Et le personnage de Romain Duris, pareil, il est dans la protection par rapport à son fils, ça va parler aux familles, ça va parler aux parents, ça va parler à tout le monde, ce film. Et il y a une musique un peu au milieu du film, vous allez voir, vous allez frissonner sur du Pierre Bachelet, le film la chanson Elle est d'ailleurs, c'est quand même assez rare pour être souligné. Vraiment, c'est un film bouleversant. C'est marrant, on m'a dit que la fin n'était pas... je l'ai vu pareil il y a quelques mois, ils ont fait une autre fin. Je trouve ça intriguant de faire 2 fins différentes qui sortent à peu près à quelques mois d'intervalle. Voilà, c'est un... Ouais, vraiment un grand... Enfin, moi, je pense qu'il sera dans mes 5 films préférés de l'année, hein, c'est quasiment sûr. L'affiche est splendide, d'ailleurs. C'est le règne animal, il est partout. Hein. Je pense qu'il joue aussi bien au CGR qu'au studio. Donc, si vous voulez le voir, il n'y a aucun souci. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler de ce film-là. Si. Et, il a bonne presse, là. Et je crois qu'il a bien démarré hier. Donc, on lui souhaite une longue vie. Et j'espère que ça... Voilà, il va rencontrer le public. Comme Anatomie d'une chute a rencontré le public, ils ont passé le million de spectateurs. Et ça, je suis, pareil, très, très heureuse pour eux, parce que en fait le film est assez pareil, 2h30, faut quand même y aller, un film de procès en plus en VO, je trouve ça chouette que les gens aient la curiosité d'aller voir ce film. Donc voilà, Le règne animal, The Creator, si vous voulez un peu plus de divertissement, même si c'est comme a dit Géry, mi-figue, mi-raisin, et puis Le procès Goldman. Alors la semaine prochaine il y aura peut-être émission, je ne serai pas là, on se retrouvera, enfin je serai là dans deux semaines, on recevra d'ailleurs un invité dans deux semaines, j'ai perdu Nicolas Aubry, voilà, réalisateur de Vital, et puis tout de suite bah, on va vous laisser avec avec Reggae Stories, puisqu'ils sont là, je les ai entendus. Et puis bah, on vous souhaite d'aller au cinéma ou découvrir des films sur par n'importe quel biais, mais pas illégalement évidemment, mais de regarder des films, de regarder du cinéma, et puis on se dit à la semaine prochaine. Ciao.